Marie-François Nette, est-ce que le nouveau guide alimentaire, ou enfin l'ancien guide,
ouais.
Tu suivais les recommandations?
Non.
Moi non plus.
Non. En fait, je suis plus près de ce que va être le nouveau guide, mais je vais t'expliquer, c'est pas donné d'emblée. D'abord, c'est une 8e édition. Le précédent guide était vieux de 12 ans. Tu sais qu'aux États-Unis, ils changent de guide aux 5 ans. Ils rénovent, ils réactualisent le guide aux 5 ans. Cette fois-ci, on a privilégié la science plutôt que les lobbies, ce qui est une très bonne chose. On préconise la variété, le moins de transformation des aliments possible. C'est excellent. Je parlais des États-Unis. Beaucoup de pays ont un guide alimentaire. Aux États, on change aux 5 ans parce qu'on fait un suivi très serré de la science nutritionnelle. En France, on se base plutôt sur 25 portraits de mangeurs, les femmes de 50 ans et plus, les bio, ceux qui n'ont pas le temps. Donc, c'est une philosophie complètement différente. Ici, c'est un outil d'éducation pour le grand public. Ça permet aux institutions, garderies, CHSLD, hôpitaux, etc., d'établir des menus sains et équilibrés. On veut minimiser les risques de maladies chroniques. Bref, on applaudit l'effort, la théorie et la science dans ce guide-là. Mais quand on le regarde, avec ce guide-là, on est comme tous pareils, tous semblables devant les nouveaux préceptes. On est tous dans une même mode, certains diront une rectitude politique, une bien-pensance. De la science, mais de la bien-pensance aussi. Exemple, le quinoa, on préconise le quinoa. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est, et surtout comment apprêter le quinoa. Moi, la première...
Mais c'est très bon du quinoa.
Oui, quand j'en mange tout fait, oui, mais je ne sais pas comment le préparer.
Ah,
et j'ai la prétention de savoir cuisiner, Paul.
Le secret du quinoa, c'est de la façon dont tu vas l'apprêter.
Ouais, mais avoue qu'il y a un effet de mode. On préconise l'eau. C'est un combat très, très ardu et très noble contre les boissons sucrées.
Ça fait des siècles qu'on dit que c'est bon de boire de l'eau.
Ben, tout à fait, shampoing en te parlant. On évacue le lait et les céréales dont il fallait prendre 8 portions précédemment. Alors, exit les lobbies. La viande, c'est une minuscule part des protéines qu'on recommande. Et là, on reconnaît le combat anti-viande. Quand je te dis qu'il y a de la science, mais il y a de l'idéologie aussi. Puis on imagine que dans 10 ans, elle sera exclue complètement. Les fruits et les légumes, c'est la moitié de l'assiette. Impossible de ne pas voir un effet aussi de la mode vegan. C'est donc à la fois scientifique et bobo. Consciencieux, austère, moral, toutes les douceurs, les plaisirs coupables qu'on réduit vraiment à leur extrême part, elles ne sont pas dans le guide. Les pâtes blanches, les croissants, les gâteaux aux carottes, on n'en parle pas du tout.
Les fromages.
Les fromages, effectivement, mais ça rentre dans les produits laitiers, mais toute petite part de rien. Et je te dirais aussi qu'il manque l'aspect local dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles. Et l'aspect local, effectivement, ce serait les céréales, serait le lait, ce serait les viandes.
Parlant de lait, les crèmes glacées.
Tout ça, on n'en parle pas du tout. On comprend qu'on va, se gâter pareil, mais il y a le petit côté moral et bien-pensant. Mais je te dirais qu'on a oublié dans ce guide-là une donnée essentielle, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la nourriture. Ni en style de vie, ni en genre, ni en âge. On peut être bio, on peut être une personne âgée, une femme en ménopause, un ado en croissance, quelqu'un qui a des intolérances alimentaires. L'assiette qu'on nous propose ne fait pas l'affaire de tout le monde dans les fêtes, physiquement. On n'est pas égaux en termes de temps et de connaissances. Ce guide-là exige de savoir cuisiner. Alors, où est le lobby pour réintroduire les cours de cuisine, d'alimentation? Où sont les familles où on a des connaissances et surtout le temps pour utiliser toutes nos ressources culinaires? Ça fait cruellement défaut. Et on est surtout très inégaux en termes d'argent. T'es certainement comme tous nos auditeurs allés faire le marché ces derniers jours.
Non, ça coûte 75$ par semaine.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, c'est sûr,
François Lambert sort de ce corps.
Ne sois pas mauvais joueur, là.
Oui, alors, à 75$ en fruits et en légumes, j'en conviens, mais les farines entières, j'ai regardé encore le prix des farines entières il n'y a pas très longtemps, les grains complets, le poisson, évidemment, et tout ce qui coûte pas cher, ce sont ces fameux produits transformés, les gras trans, les produits, les pâtes blanches, les mets très sucrés, en fait, tout ce qui est de la mauvaise alimentation. Alors, on ne peut que saluer le virage scientifique du guide alimentaire canadien. Et encore, il faudra que ce soit aux 5 ans, comme aux États-Unis, pour tenir compte des progrès. Ce qu'on considère bon aujourd'hui, il y a 5 ans, ne l'était peut-être pas ou ne le sera pas dans 5 ans. Et c'est surtout extrêmement culpabilisant pour une majorité de la population. C'est vertueux, mais c'est culpabilisant. Et la culpabilité, en as-tu vraiment besoin?
Alors là, c'est emprunté à notre prochain chroniqueur. Je ne sais pas s'il va te charger, d'ailleurs, pour avoir utilisé sa formule.
Mais oui.
Le Parti québécois prépare sa rentrée parlementaire, sa session dans les Laurentides, jusqu'à demain.
Exactement. Parce que la session commence bientôt, c'est le 5 février à Québec. Et puis, ils sont 10. Le 30 septembre 2018, ils étaient 26, ils étaient l'opposition officielle. Et depuis le 1er octobre, au PQ, ils sont 10 et ils sont la deuxième opposition. Et ils sont encore visiblement sous le choc au Parti québécois. Ils ont vécu un accident frontal. On n'a pas pu vérifier l'état réel des victimes parce que la session précédente a été trop courte, 2 semaines, ni même si le véhicule était en état de marche. C'est ça dont on va se rendre compte pendant cette longue session, cette première vraie session. Et on ne peut pas dire que le Parti québécois est revenu sur sa défaite. En tout cas, avec ce caucus-là, ils sont vraiment tournés vers l'avant. Mais est-ce que l'exorcisme a eu lieu? Est-ce qu'on n'a pas réfléchi en public comme c'est l'habitude au Parti québécois? Alors, peut-être l'ont-ils fait en privé, mais bref, on n'en sait pas tellement plus. Sur le statut de deuxième opposition, c'est très inconfortable en général, mais certainement plus encore quand la troisième opposition, Québec solidaire, a l'air d'être au pouvoir. Ils sont triomphants, ils sont spectaculaires, on l'a vu avant les fêtes avec Québec solidaire. Et le PQ a donc peu d'espace en chambre parce qu'il est la deuxième opposition. Et Québec solidaire occupe le terrain hors Assemblée nationale. Fait que là, il va falloir que le PQ se pose la question, quelle stratégie ils vont adopter pour avoir de la visibilité et avoir du temps de glace. Et puis également, sur quelle position va jouer le PQ? Il y avait Jean-François Lisée, donc jusqu'au lendemain de la défaite, qui disait une chose et son contraire, qu'il y avait des positions extrêmement variables. Il voulait des alliances impossibles. Est-ce que ça aura peinturé le PQ dans le coin? On va le vérifier cette session-ci. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la souveraineté? C'est une excellente question à laquelle, j'imagine, ils vont ou ils auront réfléchi. Est-ce qu'ils vont mettre le cap vers la gauche ou vers le centre? Ils ne sont que 10, mais il semblerait que 2 factions s'opposent à l'intérieur de ces 10 députés-là. Quelle position vont-ils prendre sur les signes religieux? Parce que ce sera un dossier prioritaire pour la CAQ de François Legault. Est-ce qu'ils vont y aller de l'interdiction des signes religieux pour les enseignants ou pas? Est-ce qu'ils vont vouloir une clause grand-père sur les signes religieux ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Bloc québécois de Yves-François Blanchet? On se dirige vers des élections fédérales à l'automne prochain. Est-ce qu'ils vont appuyer le Bloc? Est-ce qu'ils vont marcher main dans la main avec le Bloc? Autant de questions sur lesquelles il va falloir que le Parti québécois se fasse une tête. Et c'est d'autant plus compliqué, Paul, que le PQ ne peut pas avoir une ligne claire et définitive tant qu'il n'y a pas de nouveaux chefs ou de nouvelles cheftaines.
Oui, je comprends.
C'est pas évident.
Mais en toi et moi, ça, on ne se bouscule pas pour pouvoir...
Un peu moins qu'au Parti libéral. Hein?
Oui, il y a été une époque où, écoute, le congrès au leadership d'un parti comme celui du Parti québécois était un événement historique presque.
Absolument.
Majeur.
Digne du Centre Bell.
Oui. Et là, évidemment...
Là, on a l'impression que l'intérêt est vraiment très, très, très ténu.
Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire ça, d'ailleurs.
Ben, d'ici un an, ils avaient comme 2 ans à partir du moment de la défaite, puis c'était correct qu'ils prennent leur temps, puis qu'ils réfléchissent, puis qu'ils pensent leur plaie. Mais l'ont-ils fait, comme je te dis? Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'ils veulent revenir sur la défaite? Et puis ça alourdit beaucoup la tâche de Pascal Bérubé, le chef intérimaire, qui est vraiment dans une position très périlleuse. Il faut qu'il maintienne les factions ensemble. Il faut qu'il prépare le terrain pour l'élection et le nouveau ou la nouvelle chef. Orienté, mais pas trop. Vraiment, ce parti-là est dans une, pour revenir sur les métaphores automobiles, dans une fâcheuse position. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu as entendu aujourd'hui Gaëtan Barrette du Parti libéral qui s'est payé la traite en intervenant donnant sur la nécessité d'avoir de la peinture québécoise à la résidence officielle du premier ministre. Et puis, il est allé plus loin. Il dit que ça serait le fun d'avoir des bières de microbrasserie d'ici,
mais c'est le peintre,
des fromages locaux.
Oui.
Alors, il est vraiment, quand même, le Parti libéral occupe le terrain identitaire qui était réservé au PQ. C'est que tes affaires vont mal.
Oui, mais c'est parce que le premier ministre, qui a tendance à commettre des lapsus et quelques impairs, était loin de se douter que ses commentaires sur la peinture Sico, qui allait quitter le Québec, il avait proposé un boycott, allait se retourner contre lui. C'est le peintre peinturé dans le coin, parce que c'est une peinture qui venait de l'extérieur du Québec. Qui a redonné une couche à la résidence.
Oui, oui, c'est quand même assez ironique, là, mais que le Parti libéral profite de ça au lieu du Parti québécois.
Oui.
T'avoueras que on n'est pas habitué à ça.
Oui. Mais venant de Gaétan Barrette, c'est pas surprenant. Il n'en rate pas une.
Alors,
mais le Parti québécois, quand même, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ils ont quand même un atout qui est indéniable.
Lequel?
Véronique Yvon bénéficie encore. On l'a vu la semaine dernière à Tout le monde en parle. Oui. Non seulement d'une crédibilité, d'un appui, mais également d'un respect de la population énorme. Et ça, d'avoir des personnes...
Et des autres partis.
Oui. D'avoir des personnes ressources semblables dans un parti, ça doit donner espoir un peu.
C'est extrêmement précieux. Mais je reviens au véhicule. Mettons que tu as une conductrice, puis que le véhicule est comme un peu...
Le véhicule scrap. Est en voie d'être envoyé au CA.
Ouais.
Ouais. Mais c'est
sûr. Ça va être intéressant à suivre cette session-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein?
Merci Marie-France et
à demain, Paul. À demain.